Camping 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
Eh bien voilà les amis, nous nous retrouvons, il est 10h17 exactement sur le plateau de Radio Imo. En direct du Palais des Festivals, nous sommes installés au Salon des Ambassadeurs. Nous sommes à Cannes, on est ravis d'être avec vous pour cette édition 2025 du MIPIM qui commence plutôt pas mal. On est ravis d'être avec vous. Je vous rappelle le grand entretien tout à l'heure à 11h45 avec la ministre du Logement Valérie Létard. Et nous rencontrerons les acteurs de premier plan de l'immobilier. C'est le cas d'ailleurs puisqu'il est avec nous sur le plateau. Il nous fait l'honneur d'être là. Il est le président de Sogénial. Bonjour Jean-Marie Souclier.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Bien, et vous?
Moi, je suis ravi de vous voir.
Bon aussi.
J'ai envie de vous poser cette question, comme ça, à brûle-pourpoint, le sentiment que vous avez, cette première ouverture du MIPIM. Bon, on a de la chance, il ne pleut plus. Hein.
Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est que... et là, c'est un petit peu calme, et la pluie n'aide pas, et la grisaille n'aide pas. Hein. Le soleil, ça donne toujours plus d'entrain. MIPIM qui commence un petit peu calme, mais on sent quand même que c'est il y a un peu moins de visiteurs, mais les équipes sont resserrées sur finalement les décideurs. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être probablement un MIPIM plus de business, un peu moins de rencontres du tout venant, des choses comme on avait l'habitude d'avoir. C'était un grand salon de rencontres. Là, je pense que ça va être un salon de business beaucoup plus intéressant, avec des vraies rencontres clés, avec des gens qui ont un peu plus de temps et donc la capacité à nouer les vrais bons contacts et à initier des bons deals.
Donc finalement, un peu moins de monde, mais peut-être plus efficace en termes de rentabilité. Jean-Marie, j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes à la tête. D'ailleurs, si vous permettez, je vais vous redemander de représenter Sogénial en quelques mots pour qu'on puisse bien savoir exactement le périmètre de votre activité.
Alors, Sogénial, en quelques mots, c'est une société de gestion de portefeuille agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc, notre métier, c'est de collecter de l'épargne, de l'argent dans des véhicules immobiliers de type grand public comme des SCPI ou des fonds privés de type OPPCI, SLPI ou autres. Et tout ça est investi dans de l'immobilier tertiaire, commerce, bureaux, activités, en France, en Espagne, en Belgique, au Portugal et en Allemagne. On gère 1,4 milliard aujourd'hui à travers plus d'une trentaine de fonds, dont 5 fonds grand public en SCPI et groupements forestiers d'investissement.
Alors justement, est-ce que vous avez des préférences dans ce qu'on appelle les classes d'actifs, plutôt tertiaire, plutôt commerce, résidentiel ou un peu de tout?
Alors nous, on évite le résidentiel parce que souvent, la SCPI, on échange la plus-value parce qu'on ne vend jamais le patrimoine totalement pour percevoir les plus-values compte du revenu. Et l'habitation, c'est plutôt échanger le revenu compte de la plus-value à terme. Donc c'est compliqué, à part pour certains opérateurs très spécialisés et très bons, de faire de la SCPI avec de l'habitation.
Mais ça existe quand même. Hein.
Ça existe quand même. Il y a quelques sociétés comme Kianéos Campfonds, Urban Premium, il y a des fonds de défiscalisation ou des fonds plus classiques de capitalisation qui fonctionnent très bien.
Si on devait aujourd'hui, avec Sogénial, demander quelle est la dominante en classe d'actifs, ça serait plutôt quoi, le bureau ou le commerce?
Alors aujourd'hui, chez nous, on a plutôt une dominante. On essaye de ne pas avoir de stratégie arrêtée, c'est-à-dire qu'on essaye d'être opportuniste dans le bon sens du terme, d'être en fonds diversifiés.
Vous avez raison.
Donc de faire du commerce, du bureau et de l'activité, et de ne pas se dire on doit être à un tiers, 40, 30 ou quoi que ce soit. Ce qu'on note quand même, c'est que les deux classes dominantes, c'est le bureau et le commerce. Et sur les dernières années, la classe dominante en termes d'investissement, c'est plutôt le commerce, notamment à l'étranger. On a finalement notre SCPI européenne qui est plutôt orientée commerce, c'est assez marrant, et notre SCPI française, cœur de région, qui est plutôt orientée bureau.
Alors justement, le bureau est confronté à un choc très puissant, hein, pour être très clair. Juste avant vous, il y avait Fabrice Allouche, le président de CBRE France, qui dirait « nous ne consommerons plus le bureau comme nous l'avons fait » et que donc il y a une rétraction très forte du volume de mètres carrés sur les prises à bail. Est-ce que vous confirmez cette tendance que les entrepreneurs prendront moins de mètres carrés sur le volume de bureau et que finalement on a un volume de stock en bureau qui est beaucoup plus élevé ou certains actifs, finalement, un jour ne trouveront plus preneur?
Alors clairement, on voit que le marché du bureau a changé, on voit que l'utilisation, comme il le disait, a changé. Évidemment, les opérateurs immobiliers, hein, que ce soit les propriétaires, que ce soit les promoteurs, n'attendent pas tranquillement que leur immeuble soit détruit pour faire autre chose. Ils réagissent, ils aménagent les bureaux, ils repensent l'utilisation du bureau, ils repensent la place du bureau dans la vie des gens, dans l'emplacement physique. Néanmoins, je reste convaincu que le bureau, on en a besoin. Il n'y a aucun doute sur la question, on n'est pas fait pour travailler chez nous. Chez nous, c'est pour vivre. On l'a vu à certaines périodes, c'est pas facile. Faire travailler les équipes ensemble, je reviendrai. Enfin, ce que je disais quand on était en période Covid, je disais qu'à un moment, il faut que les gens reviennent dans les bureaux parce que le fonctionnement d'une entreprise fait que les gens ont besoin de se parler. En fait, évidemment, quand vous êtes dans une multinationale avec des dizaines ou des centaines de milliers de salariés, c'est différent. Mais notre tissu économique, c'est des PME, c'est des très petites entreprises. Et dans ces entreprises, pour que ça fonctionne, pour que ça se passe bien, pour qu'on ait de l'efficacité, et on est dans les champions de la productivité en France, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se voient. Donc nous, on reste confiant sur le bureau. C'est sûr que ce n'est pas le même bureau qu'hier. C'est une nouvelle donne, mais on continue. On a encore acheté la semaine dernière des immeubles de bureaux à Aix-en-Provence parce qu'on est convaincu de ce sous-jacent.
Ah, mais je vais vous dire, et surtout qu'en plus, c'est une région où nous étions avec la maire d'Aix-en-Provence récemment et que j'ai trouvé incroyablement dynamique. Mais vous l'avez dit quand même, on consommera quand même moins de mètres carrés, mais on retourne au bureau et d'ailleurs, on observe qu'il y a un retour comme un effet balancier. Du tout télétravail, aujourd'hui, on veut revenir au bureau. Est-ce que cette tendance-là, vous la confirmez aussi ?
Alors nous, on la voit. Alors c'est vrai que nous, ayant beaucoup d'immeubles en province, finalement, les gens étaient un peu moins télétravail.
Et une époque, c'était fou, quoi.
Parce que, voilà, c'est historiquement moins télétravail, mais on voit quand même que les gens reviennent au bureau ou alors aménagent le télétravail, finalement, pour alléger les contraintes de transport. Parce que de plus en plus, on s'éloigne des centres-villes, on s'éloigne des centres de bureaux pour... quel qu'il soit, pour habiter, pour des questions de coût assez logiques, hein, et d'avoir plus de surface. Donc on voit quand même que les gens reviennent vraiment vers le travail. Ils ont besoin de cette sociabilisation. C'est pas la même sociabilisation que ses voisins, que ses amis. C'est un autre champ. C'est autre chose que la famille. Les gens, on voit souvent, en fait, un peu marre d'être chez eux, ont envie de faire une vraie coupure. Ils vont travailler, c'est le travail. Ils rentrent à la maison, c'est la famille. Et on vit différemment. Et encore une fois, on a aussi nous. Parisien, c'est une réalité, un prisme qui est un peu différent. Mais en fait, dans beaucoup d'entreprises, si ce n'est la grande majorité en région, les gens n'ont pas du tout les mêmes horaires qu'on peut avoir à Paris.
C'est
des modes de fonctionnement où, en fait, quand ils terminent à 17h30, voire même avant, en fait, ils rentrent chez eux, ils profitent de leur jardin, ils font autre chose. Et donc, en fait, ils ont vraiment envie d'avoir cette coupure et d'être dans deux environnements différents.
Question sur la mixité des usages. Est-ce que vous y croyez ? Quand je dis usage, je dis finalement, vous avez des bureaux. Hein, ou même des commerces dans lesquels on pourrait imaginer d'autres destinations ou plusieurs destinations. Exemple, bureau avec un espace bureau privé classique, un espace de coworking, peut-être un espace un peu de réception. Est-ce que tous ces modes d'usage du mètre carré, dans l'idée d'optimiser aussi le volume de mètre carré, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai gâchis de mètre carré quand on voit le taux d'utilisation du mètre carré de bureau. Vous êtes d'accord là-dessus ?
Moi, je voyais des entreprises chez qui j'allais où les gens étaient obligatoirement tous en télétravail le mardi et le jeudi. Donc ça veut dire qu'ils utilisaient les bureaux 3 jours sur 7, globalement 3 jours sur 7.
C'est incroyable. En ratio, ça fait...
Et ils payaient très cher. Alors moi, je pense que ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner, mais il faut arriver à séparer les espaces. En fait, aujourd'hui, on a quand même une... On revient de certains modes de fonctionnement, très, alors les immenses open space, très impersonnels, on en revient. Même moi, je ne suis pas hyper convaincu des systèmes de flex office où les gens ont besoin quand même de la stabilité. Puis, en fait, la plupart des gens dans les bureaux, si on réfléchit, bien sûr, les commerciaux, bien sûr, les producteurs, les front office ont une mobilité, ont des modes projet, mais beaucoup de gens, c'est du support administratif, de la comptabilité, de l'administratif, plein de choses comme ça, du back office. Et eux, en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui travaillent avec les mêmes personnes au même moment, dans les mêmes endroits. Donc, je pense que dans les bureaux, il faut vraiment être capable. Si on arrive à vraiment séparer les espaces, on peut arriver à créer des choses. Et nous, on le voit dans des utilisateurs dans nos bureaux. Et finalement, si on regarde un peu le coworking, c'est ça aussi. Dans le coworking, qui est grand thème à la mode, finalement, on n'est plus du tout dans le schéma d'être... vous venez, vous avez 200 places et vous vous mettez où vous voulez, comme vous voulez. Aujourd'hui, les entreprises louent des espaces privatifs. Ils ont leur propre bureau attribué, que ce soit ce bench de bureau ou que ce soit cette salle fermée. Et après, il y a des accès à des salles de réunion ou à d'autres choses. Ce qui prouve bien que les gens veulent leur espace, finalement. Et à côté, on peut mixer cet espace privatif avec à côté des espaces de passage pour les salariés de l'entreprise quand ils sont plus là ou pour d'autres.
Dans l'absolu, ça peut être peut-être même un peu d'hôtellerie, ça peut être du food, ça peut être du sport. On est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'incohérence à vivre dans le même espace des destinations différentes.
Non, il n'y a plus d'incohérence et je pense que c'est même...
Faire ses courses, par exemple. Vous savez, cet immeuble, le siège de BNP Paribas, Metal 57, vous savez, sur les quais,
oui.
Quand vous entrez à l'intérieur, vous avez l'impression d'être dans une rue qui est traversante. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau. Est-ce que vous partagez cette idée que de toute façon, l'objectif, c'est de lutter contre le gâchis du mètre carré ?
Lutter contre le gâchis du mètre carré, et l'avantage, c'est que ça apporte une meilleure qualité de service. Parce qu'en fait, si vous avez juste une cantine qui sert pour les salariés, vous aurez une cantine qui ne va pas faire beaucoup de couverts et de moins bonne qualité. Si votre cantine devient un restaurant sponsorisant en partie par votre entreprise et ouvert à d'autres, bah vous allez avoir un vrai restaurateur qui va faire la cuisine. Alors, j'ai rien contre les cantines, mais on va améliorer le service. Si vous faites un espace de réception qui va être loué, bah vous allez pouvoir faire un plus grand, plus beau, qui va servir pour vos équipes et puis qui va servir à d'autres. Et tous ces éléments-là, finalement, vont apporter du service. Et c'est toujours, ça a peut-être été une problématique à un moment d'avoir trop des choses internes à un immeuble et donc avec une viabilité économique compliquée, alors que si on ouvre ça sur l'extérieur, on trouve tout de suite une viabilité économique bien meilleure et on améliore nécessairement le service aux utilisateurs de l'immeuble et à la communauté de façon globale.
Extrêmement clair. Dernière question, Jean-Marie Souclier. Comment vont les affaires pour ce génial ?
Alors ce génial, on va bien, on est content. On reste une société de gestion qui collecte, qui a une collecte nette très positive, hein, puisqu'on a fait plus de 140 millions de collectes l'an dernier sur l'ensemble de nos fonds grand public.
Ah oui, pas mal.
Et ça, c'est important. Alors bien évidemment, on aurait aimé faire plus, mais vu le contexte, on est très content de l'avoir fait, on est très content des performances. On est rentré quelque chose d'un peu qui aurait pu être inespéré pour nous il y a quelques années, vu notre taille, dans le top 10 des sociétés de gestion en termes de collecte. Donc là, on se développe bien, on sert les performances de nos fonds. L'ensemble de nos fonds atteignent les performances qu'on avait annoncées en début d'année dernière. On a très peu de retraits, donc pas de problème de liquidité.
On est heureux. On nous pose la question, est-ce qu'un épargnant peut directement contacter Sogénial pour épargner ? Est-ce qu'il est obligé de passer par un gestionnaire de patrimoine ?
Non, vous pouvez passer par votre gestionnaire de patrimoine et vous pouvez nous contacter directement via notre site internet.
On peut aller sur le site internet.
Voilà, ou nous contacter par téléphone avec grand plaisir.
Alors, petite question prosaïque, notamment des auditeurs. À partir de combien je peux investir ?
À une SCPI, ça commence à 2000 euros.
C'est bien.
Ça commence à 2000 euros, 2005, 6 pour les certaines. Mais c'est des montants d'investissement très bas, finalement, pour un produit qui doit être accessible à tous.
Est-ce qu'on peut donner le taux de rendement ?
Alors, ça va dépendre des produits.
En moyenne.
Vous
nous donnez un axe.
On a tous nos fonds sont supérieurs à 5 en distribution.
Ah, pas mal.
Et on en a même supérieurs à 6 avec nos SCPI phares aujourd'hui.
Bon, un appel est fait aux épargnants, voilà, avec des taux de rémunération. Et c'est vrai que dans un marché contraint, vous avez réussi effectivement à surnager. Ce qui me démontre aussi, c'est que vous avez aussi toujours eu, chez Sogénial, une attitude un peu prudentielle, très structurée, très encadrée, avec des actifs que vous maîtrisez, parce que je crois que vous maîtrisez la totalité de la chaîne de valeur. Hein. Alors, je crois que c'est vous-même qui administrez vos biens.
Hein. Oui, c'est un élément qui est important chez nous. On est convaincu que la SCPI, ça doit se gérer en interne. Donc, évidemment, la collecte, c'est les conseillers en gestion de patrimoine ou le direct avec nos équipes. Mais après, on a les équipes d'investissement, on a les équipes de gestion. C'est nous qui encaissons les loyers, c'est nous qui faisons la comptabilité. On tient à tout maîtriser en interne pour connaître. C'est un des mots forts chez nous, c'est la proximité. Pour connaître nos locataires, pour être proche de nos locataires, il faut les gérer nous-mêmes. Et un deuxième mot qui est important chez nous, c'est la stabilité. Et c'est un élément qui est important aujourd'hui. C'est qu'en fait, on cherche à délivrer, et c'est le métier de la SCPI, de délivrer une performance long terme, de bonne qualité, assez relativement linéaire aux porteurs de parts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est un peu chahuté. On a eu beaucoup, beaucoup de lancements de SCPI l'an dernier, 18 nouvelles SCPI. Il y en a encore d'autres qui arrivent cette année. On a 8 nouvelles sociétés de gestion qui sont arrivées. On a des effets financiers qui font des annonces de taux mirifiques en termes de rendement. En fait, tout le monde sait que ça, c'est du rendement qui va être court terme. C'est très bien de le prendre à l'instant T. Mais il faut penser à structurer, que ce soit avec Sogénial ou d'autres sociétés de gestion. On est très nombreux, l'ensemble des sociétés de gestion sont de bonne qualité. À structurer un portefeuille cohérent et surtout avec une lisibilité long terme et pas s'arrêter un peu à des faits de mode qu'on peut avoir, qu'ils soient sur ces fonds-là, qu'ils soient sur d'autres stratégies. En fait, je pense qu'il faut garder de la cohérence, de la division des risques dans les portefeuilles pour une sécurité long terme.
Je pense que vous parlez d'or parce qu'effectivement, c'est à ça qu'on reconnaît les professionnels qui s'inscrivent aussi sur une démarche long terme. Vous savez, il y a toujours des météores qui arrivent et entre la promesse et la réalité, c'est toujours différent. Voilà, vous retrouvez effectivement, bien sûr, Sogénial sur le site internet et vous absolument regardez toutes les offres qui sont faites avec des taux d'épargne qui sont finalement extrêmement maîtrisés, donc accessibles à tous. Merci Jean-Marie Souclier.
Merci Sylvain.
Président de Sogénial. On vous retrouve dans quelques instants avec la suite de nos programmes. Il est 10h30. On va recevoir encore une fois des acteurs de premier plan sur notre plateau. Et bien évidemment, on attend le grand entretien tout à l'heure à 11h45 avec la ministre du Logement. A tout de suite.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.